Quand je réfléchissais au thème de mon partage de ce matin, ben, je me suis rendu compte que ces dernières semaines, il y avait un peu comme un fil conducteur qui me revenait. Et ce fil conducteur, c'était la vie de Paul. Plus spécifiquement, l'exemple de Paul pour nos vies contemporaines. Pas de problème. Tu réponds pas ? Alors, par exemple, à notre dernière réunion maison, c'est Loïc qui nous a conduit sur une réflexion autour de la rencontre entre Paul et Ananias. Et à ce moment de la rencontre entre les deux hommes, ben, le ministère de Paul, lui, il n'avait pas encore commencé. Et le livre des Actes, il nous explique comment Dieu s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Vous connaissez tous cette histoire, je pense, où Paul a eu une apparition de lumière, qui va d'ailleurs le rendre aveugle pendant 3 jours. Mais en fait, le passage que nous avons étudié, il racontait comment Dieu s'était servi d'Ananias. D'ailleurs, Ananias, on entend parler de lui que dans ce chapitre-là. Il s'est servi de lui, un chrétien obéissant, pour aller imposer les mains à Paul. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Paul est l'ennemi des chrétiens. Il faut en avoir pour y aller quand même. Et Ananias va obéir à Dieu. Il va prier pour Paul, qui va rentrer dans son ministère, qui va être baptisé et qui va être rempli du Saint-Esprit. Et cette prière d'Ananias, ben c'est le point de départ. C'est le point de départ. La semaine dernière, notre ami Fred, pour ceux qui étaient là, il a choisi un autre passage qui concerne aussi Paul. Est-ce que vous en rappelez ? Pam, 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 pam. Personne ne se rappelle de ce qu'a dit Fred la semaine dernière ? Vous m'inquiétez, ceux qui étaient là. Fred, franchement, j'ai failli reprendre tes notes pour le redire cette semaine-là, autant ça serait passé comme une lettre à la poste. Non, alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Hein. Je vous rappelle que Fred, il a choisi le passage qui nous explique la situation dans laquelle Paul s'adresse à Agrippa et à Festus. Ça vous rappelle là quand même, hein, ça vous revient ? Voilà, donc il est jugé devant le tribunal. Et Fred nous a brillamment expliqué, enfin brillamment, maintenant j'ai un doute parce que vous vous en souvenez plus, que malgré finalement sa condition de prisonnier, eh ben Paul, c'était le plus heureux des trois personnages. Vous vous rappelez ? Voilà, ok. Alors on ne va pas refaire son message, hein, bien entendu, mais quand même c'est intéressant. Et moi je vais vous poser une question. Savez-vous ce que fait Paul entre ces deux moments ? Entre ce moment où, de manière impressionnante, Dieu s'adresse à lui sur le chemin de Damas, lui fait tomber les écailles, et donc il décide de rentrer dans son ministère, et ce moment, vraiment plutôt proche de la fin de sa vie, parce que c'est juste avant d'être envoyé à Rome, où il rencontre Agrippa et Festus. Que fait Paul entre ces deux moments ? Il voyage partout. Ben moi, j'ai dit, ben Paul, il court. Il court. Il court, et vous allez voir qu'il va faire référence à cette course dans plusieurs livres de la Bible. Alors, on va parler de cette course ce matin, et j'ai choisi un passage qui me semble clé dans Philippiens 3, versets 12 à 16, qu'on peut peut-être afficher ici. Est-ce que ça marche là ? Voilà, super. C'est peut-être un peu petit, mais bon. Ça va ? Alors, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but, pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai eu le malheur de grimper sur la balance. Alors on a beaucoup parlé de festin, là, peut-être que ça va tomber mal, vous allez voir. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait cet exercice-là de monter sur la balance. Et j'y suis allé avec un petit peu une appréhension. Et là, le verdict, il est tombé sans appel. 85 kilos. Bam, de bon matin, Je vous dis, entre nous, c'était la première fois que j'avais cette performance-là, hein, 85 kilos. Alors que c'est le printemps, on a tous envie de se remettre en forme, on a tous envie de préparer, on appelle ça le body summer là, chez les jeunes. Et donc j'ai dit, allez, j'ai décidé de passer à l'action. C'est vrai que je me sens un peu fatigué en ce moment, un peu lourd. Les genoux, ils commencent à couiner. À 43 ans, là, ça commence à couiner. Il est hors de question qu'en plus, je continue à porter ces kilos en trop. Il faut agir et il faut agir vite. Alors j'ai réuni toute la volonté en moi, toute la motivation nécessaire et j'ai pris une décision. Je décide de prendre mon téléphone et je décide de taper courageusement sous Google « Comment perdre du poids facilement ?» Et alors, c'est très intéressant de voir toutes les réponses que l'on obtient quand on demande à Google de nous aider dans cette tâche difficile. Alors, le premier lien sur lequel je tombe, c'était « Retrouver un corps de rêve pour cet été ». Alors, ouais, mais encore, faut-il avoir le corps de rêve à un moment donné pour pouvoir le retrouver ? Alors, en tout cas, moi, j'étais convaincu qu'il était un peu trop caché pour moi, donc inutile de perdre du temps à le retrouver. C'est peine perdue, on passe. Alors, ensuite, vous descendez et vous avez le lien vers tous les produits miracles. Vous les connaissez ? Gélules amincissantes, les milkshakes pour retrouver la ligne, les régimes, les plantes, comme j'aime. Le choix est vaste, il y a de tout. Mais même sur ces sites, il y a toujours des petits qui vous promettent pourtant mon et merveille, hein, pour maigrir. Il y a des petits astérix et il y a toujours ce conseil qui revient presque systématiquement. Faites du sport, réalisez une activité physique en complément. Et en particulier la course. Ouais, mais c'est dur la course. Franchement, moi j'aime pas, je déteste ça. J'ai essayé hein, par le passé, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Au bout de 2 minutes, je commence à courir, j'ai mon cerveau qui tourne, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi. Et il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas essayé les 1000 chèques plutôt? Et puis là, ça me décourage. Voilà, courir, pour moi, c'est une punition. Et pourtant, Paul lui-même, eh bien, il m'encourage à courir. Et il me dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus s'est emparé. Alors bien entendu, hein, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de course à pied, même si Paul il en a certainement fait pas mal dans ses voyages, on va le voir tout à l'heure, mais il parle de la vie chrétienne. Mais il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux. On le sait, la pratique sérieuse de l'athlétisme, elle demande beaucoup d'entraînement, elle demande beaucoup de discipline, et moi je pense que la vie chrétienne aussi, elle le demande. La vie chrétienne, elle nécessite du temps, elle nécessite de la consécration, elle nécessite de l'énergie, une pratique soutenue de la relation avec Dieu, elle nécessite une vision pour savoir où on va, pour savoir où Dieu nous guide. Alors peut-être que ce qui va arriver là, ça va un peu vous étonner, car d'habitude on fait ce genre de choses dans une étude biblique, mais moi j'ai eu envie de vous préparer un petit récap très rapide, en 3 slides, sur la vie de Paul. Ça vous va ? Ben, si ça vous va pas, de toute façon c'est pareil, parce que j'ai rien d'autre. Hein, donc. Alors, on va survoler sa vie. On va survoler sa vie parce que je crois que quand on voit la vie qu'il a vécue, eh ben, la course, elle prend son sens. Et on comprend mieux le verset. Alors, là par contre, ça risque d'être petit. Alors, Paul, il est issu, et ça démarre de là, de la tribu des Benjamins. Il est né en Sicile, à Tarse. Il est donc juif. Mais il a aussi bénéficié de la citoyenneté romaine. Alors j'ai cherché parce que ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais comment il est juif et comment il peut bénéficier de la citoyenneté romaine? Et j'ai trouvé que des hypothèses. J'ai pas trouvé de choses dans la Bible. Alors si quelqu'un pourra m'éclairer, c'est bien. Mais j'ai lu des hypothèses que ça pourrait être par son père, que ça pourrait être un parent qui avait acheté la citoyenneté, parce qu'à l'époque, on pouvait le faire chez les Romains. J'ai lu aussi que les Benjamins, ils auraient collaboré dans une guerre avec les Romains et du coup, ils auraient pu hériter de ça. Parce qu'aussi Tarse, c'était une ville libre. Donc en fait, j'ai lu beaucoup d'explications, mais j'ai pas eu de certitude. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'à plusieurs reprises, Paul, il va utiliser sa citoyenneté romaine, notamment face aux juges, vous vous rappelez, pour obtenir des traitements de faveur. D'ailleurs, il y en a qui vont avoir peur quand ils vont l'emprisonner, quand ils vont un peu le maltraiter, quand il va dire qu'il était romain. Ils ont un peu flippé. Mais ce qui est bien aussi, c'est que quand il s'adresse aux Juifs, il les rappelle qu'il leur est juif. Donc il sait s'adapter, Paul. Ça, c'est ses origines. Après, Paul, il va se former. Il n'y a pas beaucoup de versets là-dessus, mais il y en a quelques-uns. Il va se former auprès des pharisiens. Et dans la Bible, on voit plus précisément qu'il se forme auprès d'un certain Gamaliel. Et ce Gamaliel, on le connaît aussi parce qu'il plaide en faveur de Pierre et des apôtres pour qu'ils ne soient pas tués. À un moment donné, ils ont été arrêtés, Pierre et les disciples, certains disciples, et ils ont été amenés pour être jugés. Et Gamaliel, il va sortir ces versets, vous les connaissez certainement. Et il va s'adresser à ses collègues pharisiens en disant « Si cette activité vient d'être humain, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Et donc, il va convaincre ses collègues de les laisser pour ne pas combattre contre Dieu. Donc, c'est intéressant. Sauf que le problème qu'il y a derrière, c'est que Paul, il ne va pas écouter son maître sur ce coup-là. Parce que Paul, il va prendre une autre voie. Il va décider de combattre. Il va décider de persécuter. Vous savez, Saul, c'est celui qui gardait les vêtements d'Étienne pendant qu'il était lapidé. Hein, il avait certainement un rôle d'officiel à ce moment-là. Et puis on peut lire dans la Bible, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Mais heureusement, Dieu se révèle à Paul sur le chemin de Damas. Il restera 3 jours sans voir, sans manger, sans boire, et suite à l'imposition des mains d'Ananias, des écailles lui tombent des yeux, il se lève et il est baptisé. Là, il faut bien avoir en tête, parce qu'on le lit en quelques versets, nous, que Paul, il a déjà vécu quelques années derrière. Je ne sais pas quel âge il a, ça ne nous est pas dit, mais il est à la tête d'une équipe en charge de persécuter les chrétiens. Ça ne devait pas être un ado, ça ne devait pas être un tout jeune homme. Donc, il a vécu plusieurs années dans la peau d'un ennemi des chrétiens. Par contre, sa transformation, elle est tout à fait radicale. Et il se met à prêcher l'évangile dans les synagogues, de suite après. Il était percutant. Non mais imaginez, des gens qui l'écoutent savaient que c'était un chef de la persécution et lui vient de dire, mais Jésus est le Messie. Vous vous rendez compte du pouvoir de ces paroles-là? Il était percutant. Mais il était percutant, mais il suscitait aussi de la colère parmi les chefs juifs. Et c'est là que les ennuis commencent pour lui. Il décide de rentrer dans son ministère et les ennuis commencent pour lui. L'arroseur arrosé. Très rapidement, Paul, c'est lui qui avait le mandat pour jeter les chrétiens en prison, il est lui-même la personne à éliminer. Et il veut être supprimé par les responsables. Il est même obligé, vous connaissez cette scène aussi, comme un voleur, de quitter la ville de Damas dans une corbeille pour le faire descendre de la muraille. Incognito. Quel contraste. Alors que c'était le patron, il devient le persécuté. Alors qu'il rentre dans son ministère. Alors après, il va avoir un petit temps de répit, Paul. On va aller plus vite là, vous inquiétez pas. Dieu va donner un compagnon à Paul, avec Barnabas, avec qui il va cheminer un temps pendant son premier voyage missionnaire. Ce premier voyage missionnaire, je ne sais plus trop où j'en suis. Hop, voilà. Ça va le mener jusqu'à Chypre. Enfin, il va démarrer à Chypre. Et lors de ce voyage, l'évangile va avoir de grosses répercussions, et en particulier chez les non-juifs, qui vont conduire à appeler Paul l'apôtre des païens. Un long voyage, long premier voyage missionnaire, et puis qui va prendre un peu fin par un échange vif, par une dispute avec son collègue, et ça va mettre fin à la coopération entre Barnabas et Paul. Quelque temps plus tard, je vous ai dit, j'accélère, Paul il entame un second voyage. Et là, il va partir avec Silas, un nouveau collègue. Et cette fois, la mission, elle va l'amener encore plus loin. Elle va l'amener jusqu'en Grèce. Et au cours de ce voyage, il va rencontrer Timothée, Priscille, Aquilas, c'est des noms qui doivent peut-être vous parler, qu'on lit dans les Actes des Apôtres. Et il va vivre un grand nombre de difficultés. Mais il va aussi vivre des miracles. C'est au cours de ce voyage que Paul et Silas, notamment, ils se retrouvent en prison. Vous connaissez cet épisode. Et ils vivent le tremblement de terre qui les libère. C'est loin d'être fini. Hop. Ouais, hop. Le troisième voyage. Le troisième voyage. Et là, il va réaliser encore plus loin, parce qu'on dit qu'il passe par l'Asie. Il va créer des émeutes à Éphèse quand il va dénoncer les idoles. Il est accompagné par d'autres amis, notamment Timothée. Et c'est à la fin de ce troisième voyage missionnaire, quand il revient vers Jérusalem, que Paul va décider de rentrer et d'écrire, je ne sais pas si c'est lui qui écrit, mais dans Actes 20-24, regardez ce qu'il est dit. « Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. » Il rentre, sans savoir ce qui m'arrivera. C'est justement là, à Jérusalem, qui va passer devant, qui va être en captivité, hein, et qui va passer devant le passage que nous a lu Fred la semaine dernière. « Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance, et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. » Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est chaud, hein ? Là, on rejoint le message de la semaine dernière, la pensée d'André aussi pour ceux qui étaient au culte la dernière fois, où la joie n'est pas une question de circonstance, mais on l'aperçoit quand on a la certitude de courir la bonne course, celle que le Seigneur nous a confiée. Et il y en a une qui nous concerne tous, en tout cas, de course. C'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors Paul, à la fin de son voyage, va retourner à Jérusalem. Il va raconter comment l'évangile se répand de manière miraculeuse. Et comme souvent, il va avoir de l'impact. Et son message va générer des réactions vives, va provoquer de l'agitation. Les chefs juifs, ils veulent sa peau une nouvelle fois. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va faire l'objet de plusieurs complots, qu'il va être au tribunal, qui va rencontrer Festus et Agrippa. Je crois que j'ai passé, je ne sais plus trop où j'en suis, mais ce n'est pas grave. Et à l'issue de cette rencontre, donc après Festus, il va être envoyé sur Rome, en passant par Rome, une tempête, ça doit vous parler aussi, une tempête qui va l'amener à évangéliser Malte, pas mal aussi les circonstances. Et puis après, il va arriver à Rome, et il va rencontrer les responsables. Bon, Rome, à l'époque, c'était la capitale du monde. Hein. Et dans Actes 28, verset 17, on voit que Paul il leur fait un exposé. Il passe une journée à leur faire un exposé de sa foi. Il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché, à partir de la loi de Moïse et des prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré du matin jusqu'au soir. Les uns ont été convaincus par ce qu'ils disaient, les autres n'ont pas cru. Et enfin, le dernier verset des Actes. Vous avez été curieux, une fois, vous êtes allé voir le dernier verset des Actes. C'est bizarre. Moi, j'ai trouvé que c'était bizarre. Il indiquait, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Les Actes, ils se terminent comme ça. On ne sait pas ce qui se passe pour Paul, mais par contre, on sait qu'il prêchait le royaume de Dieu et il enseignait tout ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ. C'est une fin réjouissante. C'est clair, c'est un peu brusque. Dieu n'a pas jugé qu'il fallait donner d'informations complémentaires. On ne sait pas trop comment Paul est mort. A priori, j'ai lu là aussi qu'il aurait été décapité, mais je ne crois pas que c'est dans la Bible. Mais en tout cas, au contraire, les Actes finissent sur cette bonne note que l'Évangile est annoncé. Pour moi, l'objectif de Paul, il est atteint. La bonne nouvelle, elle a touché Rome, comme lui avait demandé le Seigneur. C'est le centre économique, politique. Paul, au cours de ses missions, il a aussi touché les villes les plus influentes du monde de l'époque. Antioche, Éphèse, Corinthe, Rome, l'Asie. Quelle course de Paul. C'est encore plus impressionnant que Forrest pour moi. Et nous on balayait sa vie comme ça en quelques minutes, très rapidement. Mais regardez, là c'était le dernier, hop. Ça, c'est ce qu'il a fait. Nous, on balait ça rapidement. Et là, il l'a fait à la marche, en cheval, en bateau, en liberté, en captivité. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Hein. Sa vie, elle est juste incroyable. Il a su être attentif à l'Esprit de Dieu qui l'orientait pour être à la bonne place au bon moment. Pour moi, il a fait sa course à côté de son Dieu. Et quand Dieu va convaincre Ananias, je reviens au tout début, quand il rentre dans son ministère, pour aller prier pour Paul, il lui dit « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. » C'est au tout début de son ministère qu'il lui dit ça. « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Avec du recul, vous pensez que Paul il a répondu à son appel ? On peut sans aucun doute répondre que oui. De là même de son existence terrestre, je dirais, il y a 2000 ans, encore aujourd'hui, sa vie elle est un exemple pour nous. Alors reprenons le verset que je vous ai donné au début dans Philippiens 3. Vous savez, Paul il décide d'écrire « oubliant le passé et me portant vers ce qui est devant ». Mais pour lui, ça a tellement de sens, « oubliant le passé ». Il a passé toute la première partie de sa vie à persécuter des gens. C'est lui qui gardait les vêtements d'Étienne. C'est lui qui pourchassait, qui emprisonnait des chrétiens pour les faire taire. Moi, je comprends pourquoi il écrit « oubliant le passé ». Parce que son passé, il est lourd, il est horrible, il est honteux. Et pourtant, à plusieurs reprises dans les Actes, eh bien, Paul il va rappeler ce passé tumultueux et il va s'en servir. Il va s'en servir pour démontrer que Dieu peut transformer tout le monde, même des meurtriers. Il va rappeler que personne n'est hors jeu, malgré ce qu'il a fait par le passé. C'est peut-être pour ça que précisément c'est lui qui a été choisi. Nous tous, on a commis des actes dont nous avons honte. On a vécu des choses dont on n'est peut-être pas fier. Pas vrai, en tout cas, c'est mon cas. Et nous tous, on vit un combat entre ce que nous avons été et ce que nous désirons être. C'est un combat au quotidien. Et si justement, en regardant notre histoire, en regardant votre histoire, on se sent sale, on ne se sent pas à la hauteur, on se sent honteux de certains de nos actes, eh bien la vie de Paul, elle nous annonce une très bonne nouvelle. Dieu nous offre, comme il a offert à Paul, une grâce. Une grâce qui surpasse la culpabilité passée, qui surpasse notre ancienne faute. Une grâce qui permet d'oublier le passé et de devenir un serviteur à qui il va confier une mission. En fait, on peut tous être des serviteurs utiles, peu importe ce qui s'est passé. Alors c'est un conseil pour chacun d'entre nous. Ne nous attardons pas sur notre passé, grandissons plutôt dans la connaissance de Dieu en nous concentrant sur la relation avec lui, maintenant et aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vu un coureur qui essaye de courir la tête à l'envers ? Comme ça, là. Ben, c'est compliqué, hein ? Nous sommes pardonnés. C'est le cadeau de l'Évangile. Il est pour nous tous. Oubliant le passé, regardant vers l'avant. Alors, une fois que nous avons la certitude que peu importe notre passé, Dieu peut l'effacer pour nous projeter dans ses plans, il y a quand même un autre risque dont j'aimerais vous parler. Je pense que tenter de mener une vie chrétienne sans reproche est si difficile qu'il peut parfois même résulter un épuisement et un découragement. Face à une telle exigence de perfection comme le maître l'est, ben, il pourrait être naturel de temps en temps de penser que jamais on parviendra à satisfaire Dieu. Mais Paul est aussi dans ce cas. Il dit bien qu'il n'a pas atteint la perfection, mais il court. Quand on lit la vie de Paul aussi, on est émerveillé, tous émerveillés par sa foi, par son engagement, par les fruits qu'il obtient. Mais il y a aussi des moments un peu moins glorieux dans sa vie. Il y a des disputes, j'en ai mis une, il y a celle avec Pierre aussi qui est très connue. Il y a des disputes avec des frères dans la foi, il y a des désaccords, il y a des sentiments d'abandon, je fais comme mon père, j'ai du mal entre Léon et Léon, des coups de gueule importants, des moments de prison. Mais sa vie, elle a été très difficile. Et même quand il n'avait rien à se reprocher, il a subi des injustices, des procès, des complots pour se faire arrêter, etc. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais que ma course, elle soit un peu comme celle que je vais vous montrer tout à l'heure. J'aimerais que ma course, elle ressemble à celle du Sandbolt. Vous connaissez Usain Bolt ? Il y en a qui ne connaissent peut-être pas. Il y en a qui me disent non, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer. Si ça marche, on va voir. Hop, il faut, je pense, cliquer sur play quelque part. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle d'avant que je veux. Parce que celle-ci, elle est différente. Est-ce qu'on peut la lancer ou pas? Sinon, c'est pas grave. Oui, elle est en train de partir. Usain Bolt, c'est le grand jaune au milieu. C'est le grand jaune au milieu. Et il va partir quand il veut. Voilà. Donc, c'est un Jamaïcain. C'est un Jamaïcain. Il court le 100 mètres en 9 secondes et demie. Essayez. Et pendant des années et des années, il a dominé le monde de la course. Il est multi-médaillé d'or. Et il a tout dominé, quoi. C'est lui qui a inventé le célèbre. Là, vous savez, quand on signe comme ça, là, ça vient de lui. Moi, je le fais très mal. Voilà, c'est une légende. C'est une légende dans le monde de l'athlétisme. Et ben moi, j'aimerais que ma course, elle soit comme celle-là. Je suis dans les starting blocks. J'ai compris le salut de Dieu pour ma vie. Je pense discerner mon appel. C'est la ligne d'arrivée, là, qui est au fond. Et ben j'y vais. Je fonce. Je cours à la perfection. Je performe à max. Il y en a qui me connaissent, ils ont du mal à y croire parce qu'ils savent que quand je cours pour de vrai, on dirait que je traîne une caravane, quoi. Je suis vraiment très très lent, très très lent. Mais bon, là c'est une image, c'est spirituel. Hein, non, rien ne peut m'arrêter. Je n'aurai aucun obstacle jusqu'à la ligne d'arrivée. Si je sais discerner la voie de Dieu, de toute façon je vais y arriver. Et toutes les choses de la vie, elles vont me porter. Toutes les circonstances, elles seront de mon côté. Rien ne pourra en faire entrave. Voilà la course que je veux vivre. Est-ce que la vie de Paul, elle vous semble être la course du Usain Bolt? Est-ce que tout semble beau, facile, accessible, sans difficulté? Ben moi, je n'ai pas ce sentiment-là quand je lis les actes. Par contre, ce qu'on sent, c'est une paix chez Paul. Une paix qui jaillit de lui, car il sait qu'il est dans son appel. On sent une joie. On sait qu'il est à la place où Dieu le veut. Mais je peux vous dire que les épreuves, elles sont bien là. Hein, la prison, ce n'est pas une image. Elle était bien réelle, sa captivité. Alors certes, il chantait des louanges, mais il était en prison. La maladie qui semble le ronger, elle est bien là. La solitude dont il nous fait part dans plusieurs versets, elle est bien là. Les procès injustes, ils sont réels. Les manques matériels, il a manifesté aussi dans des versets. Mais Paul, il continue sa course, il se porte vers l'avant, il persévère. Et on constate au travers de son histoire le soutien de Dieu, en toutes circonstances. C'est ça qui est important, même les plus difficiles. Alors pourquoi ça serait différent pour nous? Avec notre conversion, Dieu, il nous fait la promesse d'être là. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il nous fait la promesse de nous rassurer. Mais la vallée, parfois, elle est bien là. Peut-être même aujourd'hui, vous êtes bien, bien, bien profond dans la vallée. Mais Dieu fait la promesse d'être là. Alors vous savez, moi j'ai le sentiment que ma course, finalement une fois que j'ai écarté celle du Usain Bolt, elle ressemble à une autre. Alors là je vais parler aux plus âgés, ceux qui avaient l'âge de regarder la télé en 1992. Si vous suivez un peu les JO, vous vous souvenez forcément de ce qui va marquer les Jeux Olympiques 1992. Et même aujourd'hui, c'est considéré comme un des moments les plus marquants du monde de l'athlétisme. C'est Derek. Derek, c'est un Anglais, et il s'est lancé dans sa finale, plein de bonnes intentions, super bien préparé, avec plein d'ambition, et pourtant, l'inattendu va se passer. Vous allez le voir, hein, il va y avoir un focus sur lui, ne vous inquiétez pas. L'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête toujours pas là. Il y a son papa qui arrive. Vous allez voir, le papa ne se laisse pas démonter par les organisateurs qui essayent de dire « Il faut partir, monsieur. » Non, on va au bout. Host. On va au bout. Il y en a d'autres qui vont venir. Non, non, non. On va au bout. Même si ça vous désorganise un peu, mon fils, il doit aller au bout. Allez, ciao. Voilà. Ici, on n'est pas dans une course parfaite en termes de performance. Au contraire, il va finir dernier. Mais on voit un père. On voit un père présent, aimant, qui soutient son fils qui est dans l'épreuve, dans la colère, dans la déception. Mais le fils, malgré tout, il a la volonté. Il veut terminer sa course. Il veut terminer la course pour laquelle il s'est entraîné. Alors il souffre, mais il veut se porter vers l'avant. Même si sa blessure, elle ne lui permettra pas de faire une performance. Et c'est son père qui vient, qui brave les obstacles. La sécurité, il s'en fout. Rien ne pourra l'empêcher d'aller au bout. Alors peut-être que vous aussi, aujourd'hui, vous êtes au milieu de cette piste, blessé, vous vous remémorant des promesses de Dieu, vous rappelant des engagements que vous avez pris, vous rappelant des bonnes résolutions pour votre vie, mais déçu, déçu de ne pas y être arrivé, peut-être même à cause d'un accident de la vie. C'est difficile de lever les yeux au ciel, c'est difficile de fixer la piste devant vous. Et pour le coup, ben, vous êtes bien conscient que vous êtes très loin d'atteindre la perfection. Mais Jésus est là, dans cette situation, et il veut rentrer sur la piste. Il veut te soutenir, passer le bras sous toi. Porte à nouveau le regard devant, sur la route à parcourir, et appuie-toi sur le bon berger. Fais une chose, oubliant ce qui est derrière, porte-toi vers ce qui est devant. Cours, avance vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu Jésus-Christ. Pour finir, quand je relisais le verset, je me suis posé une question. Mais c'est quoi finalement le prix dont Paul y parle ? Est-ce qu'il s'agit uniquement de sa mission terrestre ? Autrement dit, une fois qu'il aura évangélisé à Rome, il aura remporté le prix, il aura terminé sa course, est-ce que c'est ça ? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas même. De ce qui découle des versets que l'on a lus, je pense que Paul, il a bien conscience qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais aussi que tant que durera son existence terrestre, il pourra certes faire des progrès, il pourra avancer, il pourra mettre toute l'énergie dans son appel, dans sa mission, mais il ne sera pas encore parfait pour autant. La récompense, la perfection, il ne l'atteindra qu'en fin de course, quand il sera devant le Seigneur. Sa connaissance grandissante de Christ, elle est importante. Sa participation à sa souffrance et la puissance de sa vie de résurrection font qu'il se rapproche du but. C'est sûr, il se rapproche. Et nous, il faut tous qu'on soit dans cette démarche. Mais il sait que tant qu'il vivra dans ce corps, ben le but restera encore à atteindre. Jamais dans cette vie, il ne parviendra à la perfection, mais il avance. Le but pour lequel il a été saisi par le Seigneur, Jésus-Christ, sur le chemin de Damas, Paul doit encore s'en emparer, c'est ce qu'il dit. Et il attend finalement que le grand organisateur des Jeux l'appelle auprès de lui pour recevoir le prix de ses mains. Mais même s'il a conscience de ça, ça n'empêche pas de courir, ça c'est important. Vous allez voir qu'il y a un autre verset, et là ça prend tout son sens. Dans 2 Timothée 4, verset 7, c'est Paul qui écrit encore. « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche, il est en fin de sa vie. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il a déjà en prévision. « Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Il s'adresse à nous, là. La couronne de justice qui nous est réservée, à nous qui attendons sa venue avec amour. Le prix, c'est la couronne de justice qui est réservée à tous ceux qui ont reconnu le Seigneur comme sauveur. Paul est convaincu qu'elle lui sera remise. Quand Paul écrit ce verset, il pense être à la fin de sa vie Et par ces versets, il nous partage sa satisfaction d'avoir couru la bonne course, qu'il est sur le point de terminer. Et ça doit être un encouragement pour nous tous. À réfléchir, à méditer, à demander « Seigneur, confirme-moi que je fais la bonne course ». Et pour ça, il ne faut pas se fier aux circonstances de la vie pour en juger. Vous avez vu que Paul, ce n'était pas ça qui était révélateur. Mais plutôt regardez au fond de vous, si vous avez de la joie d'être à son service, si vous sentez que vous grandissez dans votre foi, qu'on ressemble davantage à notre Seigneur avec le temps qui passe. Et moi, à la fin de ma vie, j'espère qu'il m'en reste encore un petit peu, j'aimerais aussi pouvoir écrire ces versets. Je suis convaincu d'avoir combattu le bon combat, d'avoir terminé ma course en ayant gardé ma foi. Voilà, je pense qu'on peut terminer ce temps en nous posant ces questions. Peut-être qu'on peut prendre une minute, je te donnerai la main derrière, pour se poser ces questions que j'essayais de faire ressortir en nous à travers ce passage. Y a-t-il quelque chose en nous qui me détourne de cet objectif aujourd'hui? Est-ce que je cours la bonne course? Est-ce que j'arrive à ne plus regarder en arrière, malgré mon passé tumultueux? Est-ce que j'arrive à regarder vers le vent et à discerner le plan de Dieu pour ma vie? Et si je suis blessé au milieu de la piste, est-ce que j'autorise le Seigneur à venir me soutenir? Est-ce que ma course est satisfaisante? Est-ce qu'elle rend honneur au Seigneur? Je pense que ce sont des questions qu'on va se poser tout au long de notre vie. Peut-être que ce matin, sur ce petit temps qu'on peut prendre, ça peut être un moment de se remettre en question et d'y penser. Amen.